Donc j'ai intitulé cette présentation « L'utilité pour comment en devenir ?» parce que je trouve intéressant de voir qu'on voit bien que c'est quand même la grande mode des communs. On croise du commun un peu à tous les coins de rue. Et comme pour rebondir sur ce que disait Frédéric ce matin, il y a quand même un très grand risque de récupération. J'étais assez d'accord avec le constat qu'il faisait. Et on peut aussi dire, comme le rappellent Cafensis et Federici dans le bouquin très bien qui vient d'être publié, c'est qu'on est aussi à un moment où plus les communs sont célébrés et plus ils sont attaqués. Et donc j'avais envie de vous parler de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, parce que j'y vis depuis 2016. Ça n'est pas la raison principale, mais c'est parce que ça me semble être une des expériences, l'un des territoires de France, je pense même voire d'Europe occidentale, où se développe la plus grande expérience de mise en place de communs en ce moment. Et je voulais juste être assez claire sur le fait que je n'étudie pas la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, j'y vis et j'y lutte, et c'est de cette perspective que j'ai envie de vous en parler. Donc très très rapidement, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est une vaste zone humide, c'est un bocage, donc c'est des champs de taille réduite avec beaucoup de haies et énormément d'espaces boisés. C'est 1650 hectares de ce type de paysage qui, de par le projet d'aéroport, alors c'est bien entendu également une zone agricole. On a eu l'habitude d'anonymiser les personnes à la ZAD, donc on anonymise les vaches aussi. Et c'était 1650 hectares de ce bocage qui était voué à la destruction et au bétonnage pour un projet d'aéroport qui était le deuxième projet d'aéroport à Nantes. Il y a déjà un aéroport à Nantes qui a été élu meilleur aéroport d'Europe en 2013. Oui, il y a ce genre d'élection au monde. Et c'est un très vieux projet, c'est une très vieille lutte. Le projet d'aéroport, il est né dans les années 60. Je ne vais pas vous refaire toutes les raisons de pourquoi, mais en tout cas, il a été. Donc, les premières mentions de ce projet d'aéroport, c'est 1963-1965, c'est jamais très clair. Et il a été résisté immédiatement, notamment par les paysans du coin. C'est une région de lutte, c'est un territoire de lutte, et je pense que ça c'est très important à garder en tête. Il y avait une longue tradition des paysans travailleurs, des luttes contre les centrales nucléaires. Pour rappel, la Bretagne est la seule région française qui n'a pas de centrale nucléaire, parce que les gens ont lutté au moins dans trois endroits, à Plogoff, au Carnet et au Pèlerin, et ont réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de centrale nucléaire qui s'installe. Donc c'est vraiment une terre de lutte, et les paysans se sont organisés très très rapidement contre ce projet d'aéroport, avec déjà le langage et le discours de la sauvegarde des terres nourricières, mais aussi de tout un discours sur ce qu'est la pratique paysanne, alors qui n'invoquait pas les communs, mais qui était déjà fortement en contradiction avec les termes capitalistes de l'agro-industrie. Pour beaucoup de raisons, notamment le choc pétrolier, le projet d'aéroport a en fait été mis est entré en dormance pendant de très nombreuses années. Le terme ZAD est apparu en 1974, c'était zone à aménagement différé, c'est-à-dire une zone à laquelle on ne touche pas, puisqu'il va y avoir du développement, ce qui, ironiquement, est la raison pour laquelle il y a toujours ce bocage sur la zone, puisque le remembrement n'est pas passé par là. On n'allait pas détruire les haies, il n'y avait pas besoin, on allait les bétonner. Donc c'est ironiquement le projet d'aéroport qui a sauvé le bocage, si on le prend dans ce sens-là. Le projet est ressorti des tiroirs en l'an 2000 avec le gouvernement Jospin. Les organisations de résistance ont été réactivées immédiatement. Il y en a d'autres qui se sont formées. Et donc, en plus de la lutte purement paysanne, il y a des organisations plus citoyennes qui se sont formées, avec notamment en 2004 la CIPA, puis en 2004 la coordination qui regroupait plus de 50 associations citoyennes, écolos, des syndicats, etc. Et donc, lorsque ce projet est ressorti des tiroirs, les expropriations ont commencé. Donc, on est venu proposer aux habitants du coin de racheter, aux agriculteurs de racheter leurs fermes, ce qui fait que le territoire a commencé à se vider. Et en 2008, il y a eu un appel qui est connu dans le jargon de la ZAD comme l'appel des habitants qui résistent, qui était une lettre ouverte de gens, d'habitants du territoire, plutôt des locataires d'ailleurs que des agriculteurs, mais qui ont appelé à venir occuper les bâtiments vides et les terres de la ZAD en disant très clairement un territoire ne peut être défendu que s'il est habité. Et donc, c'est bien à l'invitation des gens de la zone que le reste de l'histoire a commencé à s'écrire. Et un des jalons de cette histoire, c'est l'organisation d'un camp climat en 2009, où cette lettre a notamment été relue et amplifiée et relayée. Et c'est déjà une expérience des communs à toute petite échelle qui a commencé à se mettre en place lors d'un camp qui a duré une dizaine de jours, qui était autogéré et qui était très clairement dans la résistance pour le territoire, que des personnes ont décidé de rester, de s'installer. Une petite centaine de personnes qui répondent à cet appel. Et du coup, on commence là à avoir beaucoup plus clairement le slogan et le discours de contre l'aéroport et son monde. Donc ça n'est plus juste une lutte contre le projet d'infrastructure, même si moi je suis absolument certaine que même avant ça n'était pas juste un projet contre l'infrastructure, mais bien contre toute une logique d'aménagement du territoire. Là, dans le discours, ça devient plus clair. Et c'est vraiment, on voit bien que c'est un geste qui est éminemment politique, l'installation sur la zone, et qui est vraiment contre l'individualisation effrénée, la marchandisation du vivant, la fragmentation de plus en plus forte. Et donc on voit là que la zone aménagement différé, la ZAD devient la ZAD, la zone à défendre, et que ça c'est vraiment la zone à défendre dans toutes ses dimensions. Les dimensions physiques, politiques et sensibles. C'est quelque chose que j'ai vraiment, sur lequel j'ai envie d'insister, puisqu'on voit bien qu'à partir de ce moment-là, la résistance et la construction deviennent vraiment les deux brins de l'ADN de la ZAD. Un point marquant, c'est mai 2011, avec un rassemblement de Reclaim the Fields, qui est un regroupement de jeunes agriculteurs qui décide de faire des prises de terre. C'est les prises de terre du sabot. C'est à peu près 1000 personnes qui se réunissent avec fourches et outils agricoles en main pour prendre des terres de ce qu'on appelle les cumulards. Les cumulards étant des gens, des agriculteurs qui ont accepté l'expropriation, donc qui ont vendu leur ferme, qui ont obtenu une somme d'argent pour cela et des terres en compensation, ce qui paraît tout à fait normal, mais qui se voyaient quand même attribuer des terres par AGO Vinci le temps que le projet agricole se fasse, qui donc cumulait les terres en compensation et l'argent d'expropriation et l'utilisation et l'exploitation de terres sur le territoire de la ZAD, pour lequel ils touchaient des primes de la PAC quand même. Et donc il y avait cette idée que ça n'était pas légitime. Et donc il y a avec ce moment au sabot où on reprend des terres, et très clairement dans une logique de commun. Donc elles sont cultivées, elles sont gérées en commun. Il y a une entraide avec les paysans en résistance de la zone et autour qui se met vraiment en place. Et là c'est des productions partagées en dehors de l'économie marchande, et on voit bien avec ce moment-là, que l'articulation de plusieurs échelles et de plusieurs motivations commence déjà à se mettre en place. On y ancre une projection sur le territoire, avec des manières de faire et des perspectives fort différentes entre les différents acteurs, mais on vient de différents milieux. En mars 2012, c'est la première grosse manifestation dans Nantes, avec 10 000 personnes, 200 tracteurs qui bloquent le centre de Nantes pour la première fois. Et là, on voit bien que la résonance de la ZAD, elle commence à être vraiment perceptible, et que la défense du bocage, vous voyez, on voit tout en rouge, je ne sais pas si vous voyez, mais pour la sauvegarde du bocage, commence à prendre vraiment son sens polysémique. Ça n'est plus juste une attitude purement naturaliste de il faut sauver les haies, les petits oiseaux et les terres nourricières. Mais on commence déjà à parler d'autre chose, d'un horizon possible qui commence à se développer. 16 octobre 2012, l'opération César commence. Donc, le gouvernement Hollande envoie 1200 policiers sur la zone pour expulser les illégaux. Donc, il y a à cette époque-là les paysans historiques et certains autres habitants retenus du gouvernement Hollande que tant que toutes les procédures juridiques engagées ne seraient pas écoulées, il n'y aurait pas d'expulsion pour eux. Et il est bien évident qu'on essaye déjà de faire la division avec les squatteurs. Et donc une opération policière d'ampleur se met en place. Et on voit là que la diversité des formes de résistance et la diversité de celles et ceux qui y prennent place reflètent bien les différentes échelles dont on a parlé plus tôt. Donc voilà, c'est vraiment, on voit que ce soit des barricades en feu aux villageois qui chantent des chansons pacifiques, personnes qui montrent leur vulnérabilité en se mettant nus devant les policiers, aux gens qui sont capables d'entrer dans une stratégie complètement confrontationnelle. Il y a vraiment une palette de modes de résistance qui se met en place, qui est au demeurant une des clés du succès, je dirais, contre l'opération César. C'est qu'en fait, quand les flics se pointent avec les bulldozers, littéralement, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver au coin du chemin. Est-ce que ça va être des gens tout nus ou est-ce que ça va être des gens qui vont leur balancer des cailloux? Et donc, malgré cette résistance, ils arrivent quand même à détruire 12 bâtiments, donc des fermes et des lieux de vie. Mais il se passe quelque chose de fort et de très inattendu pendant cette période, qui est vraiment un rassemblement de différentes forces encore plus exacerbées qu'avant. Et ça, c'est totalement illustré et incarné par ce qu'on a appelé la manifestation de réoccupation. Donc il y a un appel qui circulait depuis longtemps, qui était « si on nous expulse, on revient ». Donc l'appel était « au premier jour d'expulsion ». On se donne un mois pour organiser une manifestation de réoccupation. Donc on revient. Et effectivement, cette manif a lieu. Et en fait, ça a résonné de telle manière, ce qui se passe sur la ZAD et l'ampleur de la violence policière qui a été déchaînée, que c'est 40 000 personnes qui déboulent sur la zone avec du matériel de reconstruction. Et ce qui est vraiment... très intéressant, c'est que les gens viennent vraiment pour reconstruire et pas seulement signifier leur opposition. Moi, j'étais beaucoup impliquée dans ces assemblées-là et très honnêtement, quand l'appel a été lancé, on s'est dit oui, bon ben voilà, quand on voit ce qu'ils sont en train d'envoyer en termes militaires, il y aura quelques personnes qui vont venir avec des planches, on va faire une cabane, puis bon voilà, ça sera fini. Et en fait, pas tout à fait. Alors, au cours du mois de préparation, on a bien vu qu'il se passait quelque chose de beaucoup plus fort, hein, mais donc c'est. C'est vraiment 40 000 personnes qui viennent reconstruire, pas juste signifier leur opposition. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a notamment des cabanes qui ont été préconstruites dans différents coins de la France. Donc une à Dijon, une en Aveyron, une sur le plateau des Mille Vaches, qui pendant un mois ont été préconstruites dans ces différents comités de soutien mis sur des camions de plateau et qui arrivent sur les zones. Et donc il y a eu une espèce de coordination au niveau national, voire international, de comment va se passer, parce qu'il fallait décider où on allait mettre ce hameau, puisqu'on se rendait compte au fur et à mesure des semaines de préparation qui s'écoulaient qu'on allait avoir de quoi reconstruire un hameau entier. Et donc là, il y a quelque chose de l'ordre de l'organisation des communs sur des échelles très très mouvantes, qui est très intéressant, puisque ce sont les gens qui sont ancrés dans le territoire qui vont décider où ça va se passer. Et puis après, ça arrive de toutes parts. Voilà. Et donc, c'est vraiment... Je pense qu'il y a quelque chose qui, là, est vraiment très différent d'une manif normale, de gens qui vont dans la rue pour signifier leur opposition. C'est que là, on voit bien déjà le geste qui consiste à dire il faut s'ancrer dans un territoire tout en étant connecté à beaucoup d'horizons et beaucoup de lieux différents. Mais c'est vraiment le rapport au territoire qui change. Et donc, et ce qu'on voit là, c'est on voit vraiment se déployer le sens profond de faire partie de quelque chose qui est plus grand que soi. C'est quelque chose qui est tout à fait frappant par les gens qui participent à cette manif, sachant que bien évidemment, beaucoup de gens qui sont venus à cette manif vont faire partie des habitants qui vont s'agréger après, puisque après les expulsions de 2012, il y a beaucoup de gens qui sont venus s'installer sur place. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a ce hameau qui est reconstruit en une semaine, et quelques jours plus tard, la police essaye de l'attaquer de manière très frontale en balançant des gaz lacrymogènes dans les sleepings. Et en fait, c'est là aussi où on voit à quel point ce qui a été construit de manière collective à ce point a une dimension sensible très forte. Et que la façon dont ce hameau va être défendu est quelque chose de complètement effarant. Il y a une montée en puissance du conflit qui, à ce moment-là, fait que le gouvernement réalise que là, s'ils veulent absolument écraser la résistance qui est à ce moment-là, il va falloir tuer quelqu'un. Parce qu'en fait, il y a eu tellement d'investissements à tout niveau de la part des gens à reconstruire la châtaigne, puisque c'était le nom du hameau, qu'en fait, ils sont prêts à mettre autant d'énergie pour le défendre. Et du coup, il y a trop de risques et les autorités se retirent. Le gouvernement annonce qu'il va mettre en place une commission de dialogue. Soit quoi, la plupart des groupes et des associations locales disent on commencera à dialoguer quand il n'y aura plus d'occupation militaire. Voilà, les autorités se retirent. Il y a quelques organes nationaux qui vont dans une commission de dialogue qui ne sert strictement à rien, puisqu'elle est présentée dans la logique générale de ce genre d'initiative comme non pas une. Enfin, ils disent que c'est une commission de dialogue dans laquelle ils vont mieux expliquer le projet. Donc, voilà. Dire. Et ce qui est très intéressant, c'est que les symboles du commun se multiplient. Et on voit par exemple les paysans de Copain, donc qui est un collectif de paysans indignés par le projet d'aéroport, qui ne sont pas des paysans de la zone, mais de la région, qui viennent encercler, mettre leurs tracteurs et attachent leurs tracteurs les uns aux autres autour du hameau, ce qui me paraît, moi, être un symbole de commun en résistance assez fort. Ces tracteurs vont rester sur place pendant plusieurs semaines. Ils font une déclaration sans équivoque, hein, en disant si vous venez essayer de revenir sur place, voilà, vous nous trouverez sur votre chemin. L'articulation des échelles locales, nationales et internationales, elle apparaît de manière tout à fait flagrante avec la création de centaines de comités de soutien pendant et après les expulsions. Donc avant les expulsions, il y a vraiment une poignée de comités de soutien plutôt régionaux. Après les expulsions, il y en a plus de 200. Donc on peut dire que c'est vraiment un échec politique de la part du gouvernement. Donc, ils ont vraiment agi pour fédérer les résistances. Et je pense que ces comités vont vraiment avoir un rôle crucial dans le fait que la ZAD puisse justement continuer à se construire dans cet espace d'imaginaire qui est irréductible à la seule zone géographique de la ZAD, mais qu'elle représente bien plus que ça. Et là, on voit à partir de ce moment-là les solidarités qui se diversifient et qui se multiplient. Il y a notamment l'initiative des naturalistes en lutte qui, moi, je trouve incroyablement forte et émouvante, puisque c'est des naturalistes de Bretagne Vivante, donc une association naturaliste qui invite tous les gens qui sont intéressés par les diverses branches du naturalisme, que vous soyez passionné ou expert, donc ça n'est pas réduit aux experts professionnels. Ils invitent les gens à venir faire un inventaire de la biodiversité de la zone pour pouvoir faire un rapport en se disant, en fait, nous, on est persuadés que cette zone, elle a une biodiversité exceptionnelle et que si on arrive à en faire un inventaire suffisamment précis, ça fera un élément dans la négociation importante. Le premier, donc, il décide de faire ça un dimanche par mois. Le premier dimanche, c'est le mois de janvier, il pleut, enfin, Et alors, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont déjà venus sur Zoom, mais quand il pleut un dimanche au mois de janvier, c'est vraiment sordide, hein, il y a de la boue partout, enfin, c'est vraiment mal. Et il y a 150 personnes qui se pointent. Et le processus des naturalistes en lutte va durer plus de 2 ans, avec vraiment, que ce soit, comme je vous disais, des experts, des universitaires, des passionnés, et alors du coup des passionnés de plantes, de batraciens, de papillons, d'oiseaux. C'est devenu la zone d'Europe la mieux inventoriée au niveau naturaliste. Et ça, c'est quelque chose qui donne lieu donc, à ce rapport et qui a été un des éléments clés dans la négociation. Donc on voit bien que... Ça, les naturalistes en lutte est un des éléments que je vous décris parce que personnellement, me touche particulièrement, je le trouve très flagrant. Mais ce genre d'initiative de solidarité se multiplie. Et du coup, ce qu'on voit à partir de ce moment-là, c'est vraiment avec le recul des institutions d'État, et bien, il y a offert sur un plateau d'argent à cette zone la possibilité d'être une zone d'expérimentation pendant 6 ans. Du coup, c'est voilà, il y a plus de policiers, vraiment littéralement, il y a pas de policiers qui se pointent, et quand ils se pointent, le rapport de force est tel que les gens arrivent à les faire reculer. Donc c'est vraiment très très fort. Et en 2013, il y a un nouvel appel à occuper des terres de Cumula, donc là sur 170 hectares, donc on monte en puissance, en lien avec la Journée internationale des luttes paysannes. Donc voilà, on est toujours sur cette articulation dans les imaginaires. Et ces terres deviennent la base de pratiques des communs de plus en plus ancrées, puisqu'elles vont être cultivées en commun, avec des décisions prises collectivement pour savoir qui va cultiver quoi cette année et comment on va faire les rotations. Et que, de manière très importante, ce sont des productions qui ne sont pas louées à l'économie marchande. Que là, du coup, avec le soutien de paysans et de soutiens locaux, c'est vraiment toute une zone qui apprend diverses pratiques agricoles. Donc, les paysans et les soutiens locaux partagent leurs connaissances, leur matériel. Et il y a divers groupes qui s'organisent pour cultiver, pour moissonner. Donc voilà, on fait du blé dont on fait du foin et dont on fait aussi du pain dans... deux boulangeries, sachant qu'il y avait un boulanger de métier qui s'était installé en 2011, qui avait commencé à faire du pain en distribuant à prix libre, qui a commencé à former des équipes de boulangers. Et au plus fort de cette activité, il y avait 6 fournées de pain par semaine sur la ZAD dans deux boulangeries différentes. Voilà, donc il y a des cultures qui se font de manière très différente et dont les productions arrivent sur le non-marché, voilà, qui porte très bien son nom. Je ne vais pas vous expliquer le non-marché, donc c'est assez clair. Il y a aussi voilà, de la production d'herbes médicinales, du miel... un troupeau de vaches qui est lancé par un don de génisse par des paysans soutiens, sachant qu'un des paysans historiques a également été, en 1974, du coup, installé illégalement sur cette zone, parce que lui voulait pouvoir reprendre une ferme. Il n'était pas censé le faire puisque c'était la ZAD, et c'était déjà comme ça qu'il avait pu lancer son exploitation, avec des paysans soutiens qui lui avaient donné quelques génisses. Donc voilà, on retrouve aussi des boucles et des traces de l'histoire de lutte, de partage de cette manière de faire. Il y a une auberge qui est rénovée par des chantiers collectifs qui donnent lieu à des moments de rassemblement. Voilà, ça c'est les fameux banquets des culs de plomb qui portent très bien leur nom. Ça s'appelle les culs de plomb parce qu'une fois qu'on a fini le banquet, on a bien du mal à se lever pour pouvoir faire autre chose, tellement on a bu et mangé. Et que ces moments de rassemblement très conviviaux, moi je pense qu'ils sont vraiment une partie essentielle de la construction des communs, parce que c'est là que les liens se forgent, que le sens commun se renforce, que les histoires circulent et les engueulades aussi. Mais ça, j'y reviendrai, je pense que c'est extrêmement important de ne pas avoir un récit angélique des communs, une espèce de truc, un récit bisounours où tout le monde s'entend, c'est formidable, on partage tout. En fait, généralement, la construction des communs, c'est plein de frictions, Et que en ça, je pense, par rapport au moment de rassemblement, les fêtes, les rites, ça c'est des dimensions symboliques qui sont vraiment au cœur de la construction des communs aussi, et qui sont très 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 peu étudiées. On en entend très peu parler. On a toujours l'impression que la construction des communs, cette espèce de processus hyper rationnel, de gens qui font des réunions, puis qui s'entendent, et puis qui après appliquent le résultat des décisions prises en commun. En fait, quand on commence à lire sur la pratique des communs, plutôt dans l'anthropologie, on se rend compte que c'est beaucoup plus fluctuant que ça. Souvent, les règles, elles sont discrètes, voire secrètes, et que beaucoup de ce qui s'y passe, c'est de la dimension sensible autour de moments de convivialité, de fêtes, de rites.